cuit.
Les titres du journal.
Le projet partagé de l'association Montezanne, Ciboulette et Greninette a trouvé son public et prépare sa deuxième récolte. Un jardin participatif qui mise sur les équilibres naturels et la biodiversité. À Yvorne, des documents datant parfois du 14e siècle vont bientôt déménager. La commune veut mieux préserver et sécuriser ses archives historiques grâce à un nouveau local aménagé dans les sous-sols du bâtiment de la Grappe. Avec près de 10 000 inscrits sur les 6 étapes de l'édition 2026, le Tour du Chablais confirme son immense popularité. Son président du comité d'organisation, Yvon Vouillamot, tire le bilan de cette édition dans ce journal.
Pour la météo, aujourd'hui le temps est maussade. Ça va pas s'arranger cet après-midi. Météo complète en fin de journal. Julie Gay nous présente le journal, bonjour.
Bonjour Colline, bonjour à tous. Le projet Au Jardin de l'association Ciboulette et Greninette à Montet commence sa troisième saison de potager partagé. Ce sera la deuxième récolte et le parterre semble avoir trouvé son public, selon la présidente de la structure Karine Giraud, qui la gère avec son mari Lionel. En 3 ans, le couple et la vingtaine de membres de Ciboulette et Greninette ont transformé l'étendue de pelouse de la commune montézanne en plusieurs rangées de cultures, aujourd'hui agrémentées d'une serre. Et l'aspect partagé est particulièrement apprécié de la présidente de l'association, Karine Giraud.
On lui a fait par contre un petit trou pour qu'il puisse, parce que comme c'est clôturé chez nous, il faut que cet hérisson puisse quand même aller où il veut. Alors on lui a fait une petite ouverture, il a sa petite ouverture personnelle pour pouvoir aller à droite à gauche. Et effectivement pour nous, alors c'est indissociable du jardin. Le jardin, c'est pas qu'un jardin, c'est tout un écosystème qui est remis en place. Nous on est là beaucoup plus, je dirais, en tant qu'observateur. Ça veut dire qu'on touche le moins possible à ce qui nous entoure. On met aucun produit, on laisse vraiment faire la nature. Elle s'est très bien débrouillée toute seule. Nous on regarde et puis si vraiment il y a besoin, on intervient. Mais souvent, on n'intervient pas. Par exemple, pour le rosier, à l'entrée, il était bourré de pucerons. On a laissé faire et maintenant, les coccinelles sont là. Donc, tout l'écosystème se remet gentiment en place. Il faut lui laisser le temps et il ne faut pas croire qu'on est plus fort que la nature.
Et l'un des membres du jardin, c'est notamment un hérisson. On retrouve Karine Giraud. Peut-être pour plus tard. Mais plus d'informations sur la page Facebook de l'association Ciboulette et Greninette ou directement en passant sur place au jardin. À Yvorne, les archives communales devraient bientôt déménager. Le conseil communal a accepté à la fin avril un crédit de 63 000 francs pour aménager un local sécurisé dans les sous-sols du bâtiment administratif de la Grappe. La municipalité estime qu'il était temps de réorganiser le stockage des archives communales et de les conserver dans des conditions conformes à la législation existante. Un bureau spécialisé a été mandaté pour accompagner cette démarche et déterminer comment préserver au mieux des documents historiques parfois très anciens, certains datant même de 1372. Avec ce projet, la commune souhaite aussi rendre ses archives plus accessibles et libérer l'appartement actuellement utilisé comme dépôt. Édouard Chollet, syndic d'Yvorne.
Le local aujourd'hui est donc un appartement, un studio, et à l'avenir, à terme, il est prévu de le construire, de réaliser ce local de stockage dans la cave communale, là où aujourd'hui nos activités de mise en bouteille ont lieu. Et on a défini une certaine surface sur laquelle on réalisera, on aménagera un système dit compactus, c'est-à-dire des armoires roulantes sur rails.
Le crédit demandé par la municipalité a été accepté sans grande difficulté par le conseil communal. Quelques interrogations ont tout de même été soulevées par les élus concernant le futur local. On retrouve Édouard Chollet.
Il y a eu quelques questions qui ont été posées, notamment sur les conditions de sécurité de cette infrastructure. Ils voulaient s'assurer qu'elles étaient anti-feu, à l'abri de l'eau, de la poussière. Et d'autres trouvaient que c'était problématique avec les activités vinicoles existantes. Mais on a pu, je crois, les rassurer sur ce point.
La 26e journée nationale de la fête des moulins a lieu demain et dimanche à travers le pays.
Une occasion unique de redécouvrir le travail des meuniers et les activités en lien avec ce patrimoine. Grâce à la fondation des vieux moulins de la Tine à Trois-Torrents, les curieux pourront redécouvrir des savoir-faire d'autrefois, notamment la fabrication de la farine. Conscients de l'importance d'entretenir et de faire vivre ces traditions, les vieux moulins de la Tine ouvrent leurs portes à cette occasion et lancent ainsi leur saison estivale. Pour Nicolas Promant, président de la fondation des vieux moulins de la Tine, sauvegarder ce patrimoine est important.
On le retrouve tout au fil des siècles dans les archives, où pendant 600 ans, on a eu une activité ici, où les gens venaient ici pour prendre leur farine, pour ferrer leurs chevaux, pour réparer tout ce qui était outils. C'est la grande importance. Et ce site s'était arrêté dans les années 50, lorsque le scieur est parti et le dernier meunier est parti dans la fin des années 40. Et le site est à l'abandon jusqu'en 1986.
1986, date de la création de la Fondation des Vieux Moulins de Latine, laquelle a petit à petit rénové et remis en fonction la forge, l'atelier de tissage et le moulin. Un sujet de Martine Wüstiner.
La justice des mineurs vaudoises tire la sonnette d'alarme.
Le tribunal des mineurs a traité un nombre record de près de 4000 dossiers en 2025, avec une forte hausse des affaires ces dernières années. Les infractions sexuelles chez les jeunes ont notamment augmenté de 43%, tout comme les délits routiers et les atteintes à la liberté. La présidente du tribunal, Julie Jequier, s'inquiète aussi d'une délinquance impliquant des mineurs de plus en plus jeunes. Elle dénonce un manque de place dans les institutions spécialisées et des ressources insuffisantes pour accompagner les adolescents en difficulté.
Jamais autant d'argent n'avait été énoncé pour une campagne de votation fédérale en Suisse.
Selon le contrôle fédéral des finances, plus de 15 millions de francs ont déjà été budgétisés pour les objets soumis au peuple le 14 juin. L'essentiel concerne l'initiative l'UDC, pas de Suisse à 10 millions. Les partisans du texte ont prévu 6,4 millions de francs contre plus de 9 millions pour les opposants, emmenés notamment par Économie Suisse et le Parti Socialiste. En comparaison, la campagne sur la réforme du service civil reste bien plus modeste, avec environ 300 000 francs de chaque côté.
Et à un mois des votations, les patrons suisses affichent des positions contrastées sur l'initiative UDC.
Plusieurs dirigeants, notamment dans l'hôtellerie, la construction ou le commerce, craignent qu'une limitation de l'immigration ne fragilise le recrutement et l'économie. D'autres, comme le patron de l'horloger Breitling, Georges Kern, jugent les inquiétudes liées à la pression sur les infrastructures légitimes, tout en plaidant pour une immigration davantage contrôlée. Le peuple suisse votera le 14 juin prochain sur ce texte qui vise à limiter la population à 10 millions d'habitants.
La Suisse soutient la création d'un tribunal spécial pour juger le crime d'agression contre l'Ukraine.
36 pays et l'Union européenne ont annoncé aujourd'hui leur intention d'adhérer à cet accord porté par le Conseil de l'Europe. Réunis à Chisina ou en Moldavie, les ministres des Affaires étrangères ont franchi, selon le secrétaire général Alain Berset, une étape décisive vers la mise en place de cette cour. La Suisse est représentée sur place par le conseiller fédéral Ignacio Cassis. On ouvre la page sport avec l'édition 2026 du Tour du Chablais qui a battu des records. Les 6 étapes de la 39e édition de la manifestation ont réuni au total près de 10 000 inscrits, dont plus de 2 000 mercredi soir à Montet. De quoi rendre fier tout le comité, mais également faire émerger plusieurs questionnements, notamment sur la capacité d'accueil d'autant d'athlètes dans notre région. Yvon Vouillameau.
Je suppose plutôt que c'est nous qu'on va s'adapter au Chablais, que le Chablais s'adaptera à nous. Pour ma part, ça fait assez d'années que je le parcours, ce Chablais. J'ai en tout cas pas envie de le changer. On doit juste bien réfléchir à ce qu'on veut faire pour l'avenir.
Il y a le 40e anniversaire qui arrive l'année prochaine. Il y a déjà des idées qui se bousculent dans votre tête et celle du comité.
Ouais, alors c'est un grand problème de ce comité, c'est qu'en fait des idées, il y en a énormément, quoi. Donc non, on a une réelle volonté pour l'année prochaine. Je vais déjà vous lâcher un scoop. Toutes les étapes auront lieu dans le Chablais pour ceux qui n'aiment pas venir courir, que ce soit sur la Riviera ou à Martigny. Donc toutes les étapes auront lieu dans le Chablais. On est obligé pour le 40e. On explore encore une fois plein de pistes. On est un comité qui s'est pas mal renouvelé, donc il y a beaucoup de questions, et puis on est très reconnaissant de ce qui a été fait, quoi. Il y a plein de monde qui a travaillé avant nous, ils ont fait du bon travail, et si aujourd'hui on a le succès qu'on a, c'est bien parce que ça a été bien fait pendant 40 ans.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Au niveau sportif, ce sont les Valaisans Anne-Lise Métraillé et Vincent Mouton qui sont les grands vainqueurs de cette édition 2026 du Tour du Chablais.
En football, le FC Sion peut nourrir quelques regrets.
Il recevait hier après-midi le FC Lugano pour la dernière rencontre de la saison à Tourbillon. Mené au score au terme d'une première mi-temps décevante, le club sédunois s'est ensuite rebellé en seconde période. Chouareff à la 55e minute de jeu, puis Balthazar 8 minutes plus tard, ont permis aux Valaisans de retourner complètement la rencontre. Et alors qu'ils pensaient tenir les 3 points de la victoire, ils ont concédé l'égalisation au début des arrêts de jeu. Un scénario particulièrement cruel qui empêche le FC Sion de prendre place sur le podium de Super League. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur Didier Tolo souhaitait retenir la réaction de ses joueurs à la mi-temps.
Oui, parce que c'est sur les derniers matchs, on est toujours devant. Et quand tu es devant, c'est aussi plus facile. Là, quand tu es mené contre une équipe de Lugano, c'est très compliqué de revenir. Et on a été capable de revenir, de passer devant. Il a manqué peu de choses pour qu'on garde ce score. Mais c'est aussi la réussite qu'on a eue ces derniers temps. On l'a eu un peu moins ce soir.
Quel goût il a finalement ce point du match nul. Il y a un petit peu de frustration quand même. Mais voilà, la quatrième place est officiellement validée.
Du travail accompli parce que je pense que personne. On aurait signé tous dès demain, à un moment donné, si on était quatrième. D'être devant Bâle, d'être devant IB, qui sont des équipes phares du championnat. Et puis on a encore quelque chose à jouer. On ne sait jamais, le football. Il faut toujours aller au bout. Mais un peu de déception, mais aussi beaucoup de fierté.
Des propos recueillis à Tourbillon par notre confrère de Rhône FM, Valentin Marclay. Au classement, le FC Sion reste donc quatrième avec 2 points de retard sur Lugano. Dimanche après-midi, il se déplacera au Wankdorf à l'occasion de la dernière journée de Super League.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.